I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de la marque Gemio. Vous devez très certainement connaître cette marque de joaillerie qui a pour symbole un petit chaton rose. Depuis 7 ans, date de leur création, les bijoux Gemio sont fabriqués en France dans des ateliers qui travaillent pour les grandes maisons de la place Vendôme. Gemio, ce sont des prix justes et la possibilité de choisir le métal et la pierre de votre choix au sein d'une large palette de couleurs. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Gemio vous offre un très beau cadeau. La marque s'associe à Chiffon pour vous offrir 10% sur votre commande avec le code CHIFFON10. Pour cela, rendez-vous sur son e-shop ou en boutique au premier étage du Printemps Haussmann à Paris, au 21 rue de Seine dans le 6e arrondissement, ou encore à Lyon, dans le 2e, 7 rue Jean de Tourne. Allez, place à notre invité du jour.
J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invité a 29 ans et est un véritable ovni dans le monde de la mode. Fils d'immigrés sénégalais, 4e fils d'une famille de 7 enfants, il a grandi à Villepinte et a fait de l'imprimé wax l'étoffe chic. Il a créé avec son frère la marque Maison Château Rouge en 2015, marque qui s'est invitée en 3 ans à la Fashion Week, dans les boutiques branchées de Londres, Tokyo ou Pékin, dans les allées de Monoprix et même à l'Élysée. Bonjour Youssouf.
Bonjour Valérie.
Alors, il est sympa Macron ?
Alors Macron, très très sympa, je pense que c'est parce que c'est un, je sais pas si c'est parce que c'est un président qui est dans l'air du temps, mais en tout cas je l'ai trouvé très sympa, bon. J'ai rencontré 2 fois, et puis après on a fait une tournée ensemble. Donc
t'as fait une tournée, comment ça une tournée? Alors, tu savais pas que Macron était chanteur?
Non, pas du tout.
non, je plaisante, voyage de presse, c'est ça?
Exactement, c'était pour sa première tournée en Afrique, et on est allé au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.
Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as reçu l'invitation ?
Ben, j'ai eu quelques doutes, mais après, c'est vrai que j'avais été...
Comment ça t'a eu des doutes ?
Ben, parce que, au départ, c'est la Fédération Française du Prêt-à-Porter qui m'a contacté. Ensuite, ils m'ont dit que j'allais sûrement être contacté par l'Élysée. Alors, c'est pas que j'y croyais pas, mais tant que j'étais pas dans l'avion, je me suis dit que ça allait forcément pas marcher ou j'allais pas faire le voyage avec lui. Et lorsque j'ai montré à mon père le mail, etc., il m'a pas du tout cru. Il m'a même demandé d'imprimer tous les mails que j'ai reçus de l'Élysée et ensuite, je lui ai demandé de m'accompagner à l'aéroport pour qu'il puisse voir ça de ses propres yeux. Et c'est ensuite lorsqu'on s'est retrouvé c'était à Orly, au pavillon d'honneur de Orly. Et là, il a vu le tapis rouge, des voitures de ministres, etc. Et puis en plus, mon père, on est très pudique. Enfin, on est d'une ethnie essolinké, donc on est vraiment très, très pudique. On se montre pas trop nos sentiments, etc. Par exemple, moi, pour dire bonjour à mon père, on se serre la main. Et là, je lui dis au revoir, donc il me serre la main. Et ensuite, je pense qu'il réalise vraiment ce qui se passe. Donc, il me reprend par le bras et il me prend dans ses bras pour me dire bon voyage. Et là, ça m'a vraiment touché.
Oh.
Et c'est là aussi où il a réalisé que c'était réel.
Bon, et est-ce que Macron, dans l'avion, avait une chemise Maison Château Rouge ?
Pas de chemise Maison Château Rouge. J'ai essayé pourtant.
C'est vrai ?
J'ai essayé, mais voilà, je pense que par sa fonction, c'est compliqué de porter du wax. Mais tout est possible. Donc,
pourquoi pas, en privé au Touquet.
Ou en privé
avec Brigitte.
Après, il faut qu'on envoie un journaliste ou un photographe pour qu'il puisse immortaliser ça.
Et une robe pour Brigitte ?
Et j'ai offert une robe à Brigitte Macron. Pour l'instant, j'attends toujours la photo, mais on lui a offert une robe.
Comment expliques-tu ton ascension ? Parce que l'année 2018 a été ton année. Je crois que toute la presse a parlé de toi.
Je ne sais pas si toute la presse... Après, comment expliquer ça ? C'est toujours compliqué pour moi, parce que pareil, hein, c'est une surprise. Enfin, y a quelque chose de très magique, très attractif autour du projet et de la marque que je ne peux pas expliquer. Après, je pense que c'est le fait d'être là au bon moment, au bon endroit. Et c'est aussi parce qu'avec Maison Châteaurouge, on a créé une marque qui est dans l'air du temps. C'est une marque à la fois qui parle à beaucoup de monde, à une population qui est très diversifiée, à la fois des personnes de la diaspora africaine, mais aussi des Parisiens, à l'international également. Et puis aussi, voilà, c'est une marque qui a des valeurs économiques et sociales ancrées, de par notre association qu'on a lancée au départ avant de faire la marque.
Tu peux rappeler le nom de l'association ?
Alors, l'association s'appelle Les Oiseaux Migrateurs.
Tu l'as créée avec ton frère, c'est ça ?
Que j'ai créée avec mon frère en 2014 et qui avait pour objectif de participer de manière collaborative au développement de petites entreprises africaines. C'est vraiment le cœur, enfin, c'est comme ça qu'on a débuté en réalité, c'est qu'avec mon frère, en fait, depuis qu'on est en âge de travailler, on participe à des cotisations pour aider le village. Et dernièrement, on participait à une cotisation pour financer un centre hospitalier au village. Et je crois qu'il y avait une cotisation de 300.
Il est où, le village ?
Il est au Sénégal. Il s'appelle, c'est le village de Balou, qui est près de Bakel. Donc, c'est à la frontière entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Et on devait cotiser, je crois que c'était 300 euros par personne ou quelque chose comme ça. Et avec mon frère, on était dans le RER en faisant la route et on s'est dit, mais là, nous, on cotise parce qu'on a nos parents qui sont la première génération qui a émigré. Donc, nous, on est la première génération née en France, mais on va avoir nos enfants. Déjà, à notre niveau, nous, on a de plus en plus de mal à sortir l'argent pour cotiser, mais nos enfants, ils le feront plus. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une cassure. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que la population locale est très dépendante de la diaspora. Et en réfléchissant à ça, on a conclu que, selon nous, l'entrepreneuriat était le meilleur moyen pour participer à un développement économique et social plus durable. Et que ça devait passer par là, parce qu'en fait, les problématiques qu'on retrouve sur le continent africain, c'est qu'on transforme très très peu nos matières premières. Donc forcément, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de création d'emplois. Et ça, c'est une grosse, grosse problématique. Et pour pouvoir répondre à ça et pour créer un cercle vertueux, il faut créer des entreprises pour ensuite que le développement se fasse durablement. Mmh. Et c'est de là où on a commencé à faire cette association. Et comme on n'avait pas d'argent, on a fait Maison Châteaurouge.
Parce que ça a commencé par des t-shirts, c'est ça ?
Ça a commencé avec des tops, oui. Ça a commencé avec le top, avec l'inscription Châteaurouge et les deux bandes qui rappelle un peu l'univers.
C'est le top iconique de la marque, en
c'est
fait.
C'est le top iconique de la marque, ouais. C'est le top iconique de la marque. Et en plus, moi, je voulais faire une pièce forte dès le départ. Je voulais représenter le quartier, parce que Châteaurouge, c'est parisien, mais avec une âme africaine qui est forte et qui est ancrée. Et puis, c'est à mon image, en fait. Moi, je suis parisien. Et quand je rentre chez moi avec mes parents, avec ma famille, on a une culture africaine qui est fortement présente. Donc, c'était important pour moi de pouvoir symboliser ça à travers un vêtement. Et aussi, ben, forcément, comme on parle d'Afrique... À Paris, si on veut découvrir l'Afrique, il faut venir à Châteaurouge. Donc c'était essentiel pour moi de m'installer dans le quartier et puis de représenter ce quartier.
Et puis alors le wax que l'on trouve en boutique, tu les achètes chez les vendeurs du quartier ?
Exactement. J'achète les tissus chez les commerçants du quartier et la production est réalisée à Paris.
Alors, j'ai lu que tu as commencé quand même ta carrière dans le secteur de la banque. Alors, en fait, le costume trois pièces, costume cravate, t'emmerdais en fait ?
Honnêtement, j'ai énormément de mal à porter à présent des costumes. Et c'est marrant parce que je faisais mon BTS banque juste à côté là, rue Stephenson. Ouais. Et en fait, la banque, c'est quand même un... Bon, après, j'ai découvert la mode maintenant.
Que t'as pas sur les banques, tu peux en avoir besoin, on ne sait jamais.
C'est vrai, pardon, je n'ai rien dit.
Des fringues, quand tu bosses dans la banque.
Au niveau des fringues, c'était. Moi, je m'en rappelle, hein, au tout début, j'étais hyper content de me saper pour aller au boulot. J'avais commencé en tant que guichetier dans une agence à Sevran-Bedott. Et je me souviens, ma première tenue que j'avais achetée un trench noir. Parce que j'avais vu une photo de Pharrell Williams, en fait, qui portait un French. Je crois que c'était un French Burberry.
Ouais.
Avec une petite ceinture, un pull.
Très chic, le guichetier. Hein,
ah, mais non, mais moi, j'ai pas acheté Burberry.
Ah,
moi, je suis allé plutôt chez Zara.
Ouais.
Et j'ai pris mon petit French noir que j'attachais, en plus, je nouais au dos. J'avais acheté un pull à col V noir, une chemise, une cravate très fine, un pantalon noir et une petite paire de chaussures de ville. Mmh. Et je me souviens parce que quand je prenais le bus pour aller au boulot, tous mes anciens camarades de classe me demandaient qu'est-ce que je faisais. Et lorsque je leur disais que je travaillais à la banque, c'était tout de suite j'étais passé un niveau au-dessus. Et je m'en souviens même quand on était.
Et c'était quoi? C'était des moqueries ou de l'admiration?
Non, c'est plus de l'admiration. Mmh. Honnêtement, c'est parce que forcément, ça impose le respect, le costume, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de porter. Enfin, moi, je m'en rappelle, dans les années 2000, je m'habillais en très très large. C'était les baggy, on avait les t-shirts XXL, on portait des marques comme Fat Farm, Fubu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme marque? La marque de Puff Daddy, c'était à l'époque Sean John, je crois. Voilà, on portait toutes ces marques-là et c'était très très large. Et là, tout de suite, je suis passé dans un autre monde.
Que penses-tu de la mode justement en banlieue, puisque tu as grandi à Villepinte?
Exact. La mode en banlieue, bah là, c'est assez marrant d'ailleurs ce qui se passe. C'est que moi, je sais que dans les années 90, la mode en banlieue, c'était très, c'était Lacoste. Il y avait les Bombardiers. On avait.
C'est très marque en fait.
C'est très marque. On est très porté marque. Et il y a beaucoup de. Moi, même à la rentrée des classes, lorsqu'on achetait nos vêtements, on allait à la fenêtre et on montrait nos vêtements à nos amis pour dire voilà, j'ai acheté telle chaussure, j'ai acheté telle veste, j'ai acheté tel pantalon. Et à chaque fois, il fallait montrer qu'on avait acheté de la marque. Et le fait d'avoir les logos apparents, de montrer, je pense que la marque, les vêtements reflètent ce qu'on est. Donc forcément, on est un peu dans un monde de l'apparence où il faut tout le temps prouver. Et ça passe par la façon dont on s'habille.
Ça, c'était quand tu étais ado. Et comment tu étais, petit garçon ?
Petit garçon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de moi. Petit garçon, mais
en
je...
jogging, en train de jouer au foot.
Moi, c'était jogging, football. Et non, honnêtement, je m'en souviens. On faisait que ça. On passait des journées à jouer au foot. Et je me souviens même qu'on ne portait jamais de jean. On trouvait que le jean, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour nous.
Pourquoi ?
Parce qu'on portait que des joggings.
Mais pourquoi c'était pas fait pour vous?
Parce qu'il fallait courir vite, hein, lorsque.
Ah, d'accord.
C'était plus à l'aise. Non, on était plus à l'aise on était beaucoup plus à l'aise
en sportwear,
ouais, exactement. Et après, non, je pense que le jean pour nous c'était quelque chose pour les adultes. Jusqu'au collège, je pense que mon premier jean, moi, je l'ai porté en troisième.
Mm-hmm.
Enfin, j'en portais quand j'étais beaucoup plus jeune, en maternelle, parce que j'avais pas le choix. Ma mère m'habillait. Mais je pense que lorsque j'ai commencé à pouvoir choisir mes vêtements. Et c'est qu'à partir du collège, je crois en troisième, que j'ai acheté mon premier jean.
En fait, tu passais du jogging au jean, au costume.
Exactement.
Et au trench noir, imitation Burberry, et au wax.
Et au wax, exactement.
Enfin, là, t'es pas habillé en wax.
Je suis pas habillé en wax. Là, j'ai une veste de fripe. J'ai une veste de fripe que j'ai achetée.
En velours marine, très chic.
En velours marine, je crois que c'est de l'armée US.
Oui, c'était le blason. Ouais,
exact. Et un petit jean. En fait, là, je suis habillé très américain.
Ouais.
Sur le wax, moi, j'ai plus de facilité à imaginer la femme en wax. Mmh. Parce que j'ai vu ma mère, ma grand-mère, mes tantes porter du wax. Et naturellement, en fait, pour moi, c'est plus facile de créer et d'imaginer la femme habillée en wax. Mmh. Après, sur mon évolution, finalement, je trouve qu'elle elle reflète bien, en fait, même ma recherche personnelle, ma quête personnelle, parce qu'au départ, forcément, en fait, on s'identifie uniquement comme étant un jeune de banlieue.
Mmh.
Donc, on s'habille vraiment, on a les codes de la banlieue parisienne, de la banlieue. Ensuite, après, avec le travail, forcément, j'étais banquier, donc il fallait que je m'adapte à ce milieu. Et petit à petit, en fait, j'ai arrêté de travailler à la banque parce que ça me convenait pas du tout.
Mmh.
Je m'y retrouvais pas, je me retrouvais pas dans ce secteur d'activité. Et là, tout de suite, en fait, j'ai retravaillé à la banque, mais cette fois-ci, c'était dans une banque de l'économie sociale et solidaire. Et j'étais en informatique. Et là, j'ai commencé à faire ma quête personnelle, savoir qui je suis.
Tu avais quel âge?
J'étais
très jeune, parce que t'es encore très jeune.
J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. En fait, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Donc, pendant de 18 ans. Après, quand je suis arrivé au Crédit Coopératif, j'avais 22 ans.
Mm-hmm.
22 ans. Et là, je me posais beaucoup de questions sur moi.
Déjà.
Beaucoup, ouais, mais très tôt. Mais je pense que depuis que je suis petit. Mais voilà, avant, je canalisais moins bien ces questionnements. Mais aujourd'hui, voilà, je comprends très bien. Et finalement, c'était une quête de sens par rapport à moi, ma double culture, savoir qui je suis et quel impact je peux avoir sur ce monde. En plus, en travaillant au Crédit Coopératif, en étant en contact avec toutes ces associations, ces entreprises sociales, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? Et ça passe forcément par un lien entre la France et l'Afrique. Et c'est comme ça que finalement, ensuite, après, je suis arrivé à créer la marque Maison Château Rouge, qui justement réinvente en fait ces liens entre France et Afrique.
Y a-t-il une tradition vestimentaire familiale chez toi? Tu me dis que ta mère et ta grand-mère étaient habillées en wax. Mais c'était au quotidien ou alors c'était juste pour des événements particuliers?
Alors, c'était au quotidien. Quotidien, ma mère, j'ai jamais... Par exemple, j'ai jamais vu ma mère porter un pantalon. C'est ou habillé en comme on peut voir les femmes à Paris, etc.
Jamais. Pas de jean.
Toujours été habillée de façon traditionnelle, mais c'est toujours, donc c'est la grande tunique avec le foulard qui est noué sur la tête, toujours assorti, et à chaque fois en fait ce sont des vêtements réalisés en trois pièces. C'est pour ça que un pagne fait 5 mètres à peu près, mais c'est pour pouvoir faire une tunique, une jupe et un foulard. Et c'est comme ça que c'est réparti à chaque fois. Donc ma mère a toujours porté ça. Et mon père, lui, lorsqu'il travaillait, était ouvrier à PSA, lui, c'est marrant aussi, pareil, jamais jean, toujours pantalon à pinces et chaussures. Pour lui, c'est ça, la tenue d'un homme, c'est le pantalon à pinces, les chaussures et la chemise.
Et bien repassé, j'imagine.
Toujours bien repassé. Et après, une fois arrivé à la retraite, là, c'est maintenant, il est habillé toujours de façon traditionnelle.
Et justement, quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau fringues?
Le meilleur conseil,
venant peut-être de ta famille.
Moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur parce qu'en fait, jusqu'au collège, comme je m'habille un peu n'importe comment, c'est un jour où je me souviens, je crois que j'étais en seconde, où j'ai ma grande sœur qui voyait que je portais beaucoup de couleurs différentes. J'aimais les vêtements, mais je ne savais pas accorder les couleurs. Voilà, exactement. Et ensuite, elle m'a emmené, c'était chez H&M. Pour ma première fois à H&M, je crois que c'était en seconde. Et là, on a fait du shopping ensemble. Et elle a commencé à m'expliquer les associations de couleurs. Et finalement, je pense que c'est de là où est venu le déclic. Et je pense que c'est même le plus important lorsqu'on s'habille, c'est l'association de couleurs avant tout. Et ça, c'est le meilleur conseil que j'ai eu.
Quel est ton style au quotidien maintenant?
Très simple. Très très simple. Après, moi j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de vêtements, mais j'ai l'impression de porter 1% de mon, de mon armoire.
T'es comme une femme en fait.
Je pense, hein.
Est-ce que c'est la
Non, après, je suis souvent en retard, donc peut-être que c'est ça aussi. Donc je me réveille, je prends ce que j'ai sous le bras, mais non, après je.
Est-ce que ça t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller le matin?
Avant, beaucoup. À présent, je me prends plus trop la tête parce que je pense avoir passé un cap dans ma tête, parce qu'avant, en fait, je me posais beaucoup de questions de savoir comment, si je me sentais bien, mais surtout comment les gens allaient percevoir la tenue que je porte. Alors qu'à présent, j'ai plus ce problème-là, je me pose plus de questions.
C'est la question que je pose souvent dans Chiffon, justement. Est-ce que le regard des autres t'importe?
Avant, c'était très important pour moi. C'était hyper important, mais je pense que c'est parce qu'il faut le temps de s'accomplir et de se réaliser. Et aujourd'hui, j'ai d'autres priorités, entre guillemets, et je pense qu'en faisant mon projet, maintenant, je sais que ce qui est plus important pour moi, c'est lorsque Maison Château Rouge fonctionne et que les gens ont une bonne image de la marque et plus de moi.
Je reviens à Macron, quand oui. même. Quand t'es allé à l'Élysée, t'étais habillé comment?
Alors, quand je suis allé à l'Élysée, non, là, j'ai sorti le grand jeu.
Oh là là!
Là, c'était costume. Non, puis j'étais en retard encore, parce que j'ai acheté mon costume juste avant de partir. Non, j'avais acheté un costume bleu marine APC, assez simple.
Ah oui, là t'es monté en gamme, là c'est du APC.
Là c'était voilà, c'est APC, très simple, efficace, un petit col roulé marron et puis une petite paire de chaussures avec les deux boucles.
Très précis.
Ouais, très très précis. Pour donner un...
Et tu t'es pris la tête avant en te disant, oh là là, mon Dieu, je vais à l'Élysée, comment je m'habille?
Honnêtement, oui, je me suis pris la tête. Je me suis pris la tête parce que je me suis dit, je vais aller comme je suis. Et après, je me suis dit, non, c'est quand même l'Élysée, on n'y va pas tout le temps. Et il faut représenter. Donc là, j'ai préféré avoir une belle tenue. J'ai mis du temps avant de me décider. C'est pour ça que je suis allé en dernière minute pour acheter ma tenue et y aller. Parce que sinon, en fait, j'avais aussi des costumes, mais je me suis dit, il faut marquer. C'est une occasion qui ne se présente pas toujours.
Ça n'arrive pas tous les jours.
Exactement.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Alors, le vêtement que je ne porterai jamais, Bonne question, faut que j'y réfléchisse. Ah, la triple S, Balenciaga.
Ça, c'est la grosse date shoes, ouais, en fait.
Honnêtement, c'est, je sais pas, j'ai vu personne bien la porter pour l'instant. À chaque fois que je la croise, je trouve qu'il y a un problème. C'est disproportionné.
tu mates beaucoup les gens dans la rue? Ouais. Mater au sens positif du terme. Hein.
Oui, je veux pas. Oui, énormément. Je regarde tout, les looks, les femmes, les personnes même plus âgées. Je regarde systématiquement comment ils sont habillés ou quelle pièce il y a de, quelle pièce est forte sur et pourquoi ils ont choisi de s'habiller comme ça aussi. Mm-hmm. Parce que finalement, en fait, enfin, je pense que personne s'habille au hasard, vraiment.
Donc c'est pour ça que Chiffon existe, justement.
Et c'est pour ça, oui, mais bien existe. Sûr, mais totalement. Je pense que tout le monde se pose, même celui qui a pas de style. Enfin, pour nous, il a pas de style, mais lui, il réfléchit lorsqu'il porte ses vêtements. Même si c'est de mauvais goût, je pense que lui, dans sa tête, il se dit que c'est possible d'associer ça et ça. Donc après, j'essaie toujours de voir pourquoi il a pensé à s'habiller comme ça et qu'est-ce qu'il y a de fort dans sa tenue.
Qu'est-ce que tu penses de l'expression « être à la mode » ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ?
Être à la mode, je pense qu'aujourd'hui, ça a plus trop de sens. Il y a encore des tendances qui sont fortes et qui sont présentes, mais je pense qu'aujourd'hui, les tendances durent beaucoup plus longtemps. Alors qu'avant, on voyait, ça tournait très très vite. Après, peut-être que j'étais plus jeune et forcément, à mon âge, les tendances qu'on avait d'une année à l'autre, elles changeaient. Alors que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps. Mais être à la mode, ça n'a plus vraiment de sens. Je pense que à partir du moment où on dit qu'on est à la mode, je pense qu'on est, on ne l'est plus. Hein.
On est déjà démodé.
Je pense.
Quel est ton vêtement ADN ? Un truc qui te ressemble vraiment ?
Qui me ressemble ? Je dirais le top. Le top Maison Château Rouge.
Tu en portes quand même ?
Je porte, oui, tout à fait. Je porte là, juste pas aujourd'hui. Mais je porte, j'ai des chemises, etc. Et moi je suis content en fait de ce vêtement. Je me fais un peu d'auto-promo, mais je suis content de ce vêtement parce que justement, moi la problématique que j'avais, c'est que je ne trouvais aucune marque ou aucun vêtement en wax où j'arrivais à me projeter et me dire, voilà, ça, je peux le porter dans la vie de tous les jours. Mmh. Et c'était hyper compliqué. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, comment je ferais un vêtement en wax si je devais m'habiller en wax et si je devais le porter tous les jours. Et je suis content d'avoir trouvé cet équilibre. Et donc, c'est ma pièce qui me ressemble. Après, sinon, sur moi, ce que je porte tout le temps, je pense que c'est le jean. Ça, c'est une pièce que j'ai tout le temps et que je porte facilement.
Tu as trouvé le jean de ta vie ? C'est souvent une question que je pose aux femmes, mais ça peut être valable pour les hommes aussi.
Là, j'ai trouvé ça à Copenhague. Je suis allé au mois d'août à Copenhague, au mois d'août dernier, et j'ai trouvé un jean chez 100. Mm-hmm. Je le dis mal, je parle très mal anglais. 100. Oui.
Moi aussi, hein,
rassure-toi. Ok. Parce que je suis voilà. Et là, à chaque fois, j'aime me rappeler que je suis français quand je vois que je parle très très mal anglais. Mais c'est là où j'ai trouvé le jean parfait. C'est un jean que je porte là aujourd'hui, qui est bleu, un peu comme les jeans 501 des années 90.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Exactement, avec une coupe carotte et qui se porte parfaitement. Et la difficulté avant que j'avais, c'est que j'avais des jeans, mais que je ne pouvais pas porter avec toutes mes chaussures. Alors que celui-ci, je peux le porter tout le temps et c'est parfait.
Tu as beaucoup de paires de chaussures ?
J'en avais pas beaucoup, mais là, j'ai l'impression d'avoir une addiction. J'ai une amie qui aime beaucoup les chaussures et qui en achetait énormément. Moi, j'avais toujours une paire de chaussures avant et je me rappelle, j'avais une paire de Nike tennis. Et j'ai mes potes qui me disaient, ouais, tes chaussures de Federer. Enfin, c'était un peu mon blaze.
Tennisman.
Ouais, exactement, tes chaussures de Federer. Parce que je les avais gardées plus d'un an. Et en fait, j'étais à l'aise dedans, donc je les portais tout le temps. Et je me souviens même qu'une fois, j'étais allé avec à la banque lorsque j'étais au Crédit Coop. Et dans l'ascenseur, il y avait une responsable qui est arrivée, qui m'a regardé de haut en bas. Parce que, en plus, j'essayais, je tentais des trucs. Donc, je mettais le costume avec les baskets. Mmh. Mais voilà, je pense qu'ils n'étaient pas encore prêts pour ça.
Alors, le mix and match dans une banque, ça le fait pas.
Non, c'était pas une bonne idée. Oui. Et donc, voilà, j'étais un peu...
Et t'as plus de quoi ? T'as plus de baskets ou de chaussures de ville ?
Plus de baskets, à présent. Plus de baskets. Et je trouve ça plutôt intéressant. J'aime bien. Je trouve ça cool. Et en plus, en ce moment, il se passe beaucoup de choses autour des baskets. Donc, voilà, j'aime bien en porter.
Tu as déclaré dans un magazine que le luxe d'aujourd'hui, c'est l'authenticité. Tu crois que les consommateurs sont plus exigeants à notre époque ?
Clairement. Les consommateurs, ils sont beaucoup plus exigeants. On a une nouvelle génération dont j'en fais partie. Pas que ma génération, mais tout le monde. Enfin, on a accès à Internet. À partir du moment où on a accès à Internet, aux réseaux sociaux, à la presse, on a accès à l'information et on voit ce qui se passe dans le monde. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on a envie d'agir. Tout le monde a envie d'agir aujourd'hui. Il y en a qui créent des entreprises et on est de plus en plus à le savoir que ça passe par la consommation. Et étant donné que ça passe par la consommation, aujourd'hui, les marques, les consommateurs cherchent des marques qui ont du sens, des marques qui sont engagées. Et même là, récemment, je parlais avec un fonds d'investissement qui expliquait qu'aujourd'hui, ils investissent uniquement dans des projets qui ont une valeur en plus, donc qui soient sociales, qui ont du sens, parce que les entreprises de demain, une entreprise demain ne pourra pas exister si elle n'a pas un impact soit économique, social ou environnemental.
Pourtant, il y a des marques qui, je ne vais pas les citer, mais qui arrivent parfaitement, alors qu'elles sont très controversées au niveau fabrication.
Elles y arrivent. Après, je pense qu'on vient à un tournant. Après, voilà, je suis pas sociologue ou économiste, mais j'ai vraiment l'impression. Je sens que c'est en train de changer. Après, forcément, ils ont pris de l'avance pendant plusieurs années. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces marques tiennent encore. Mais d'ici quelques années, d'ici 10 ans, enfin, j'espère en tout cas.
Tu crois que les gens vont se lasser de la fast fashion, notamment?
Je pense que les gens vont se lasser. Après la problématique de la fast fashion, moi je peux pas taper dessus parce que forcément il y a des gens qui ont pas les moyens d'acheter, ça coûte cher d'acheter des vêtements de marque éthique.
C'est souvent
éthique,
ça la problématique. Voilà, c'est ça la problématique. C'est la grosse problématique actuelle.
Et j'en parlais avec. Il faudrait peut-être acheter moins. En plus, il y a de plus en plus de marques qui font de l'upcycling.
L'upcycling.
En ce moment. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, toujours.
Dont APC notamment.
Dont APC qui a commencé ça très tôt. Et moi, c'est marrant parce que mon premier projet que j'avais réalisé. Pendant que je travaillais à la banque, j'avais fait un premier projet d'entreprise avec un ami et ça s'appelait Unnamed. C'était en 2012 où on proposait pour l'achat de vêtements de la marque, les gens pouvaient apporter d'anciens vêtements qu'on récupérait et ça nous permettait de faire nos autres collections. Mmh. Et on avait été finaliste d'un concours de l'ESSEC et de l'université de Berkeley.
Bien.
Ensuite, après, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté l'école en me disant que je vais me lancer à 100%. Mais c'était plus compliqué que ça, il fallait beaucoup plus d'argent. En plus, on voulait faire un système de boutique itinérante à partir de conteneurs maritimes recyclés. Donc, c'était très, très poussé comme concept. Mais finalement, on n'a jamais pu le faire parce que ça demandait beaucoup trop d'argent. Bah, j'espère bien et j'y pense encore. Donc, Dararit, avec qui j'avais fait ce projet, je pense qu'il écoutera. Donc, n'oublie pas, on relance ça.
Tu as déclaré aussi dans une autre interview que tu ne te vois pas comme un mec de la mode. Du milieu de la mode, en fait, tu voulais dire.
Du milieu de la mode, ouais. Pour revenir juste sur la partie fast fashion, parce que la dernière fois, j'avais une discussion avec une amie où on se disait, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État? Parce que moi, je vois, lorsqu'on était... je regarde beaucoup de choses, par exemple. Après, c'est très communiste, hein, mais par exemple... par exemple, il y a beaucoup de pays de l'Est... où ils ont des marques de chaussures, mais c'était des chaussures, les chaussures du peuple. Je crois que c'était un truc qui devait être géré par l'État ou qui s'était produit localement, etc. à un prix accessible.
Des coopératives locales.
Exactement, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, déjà en France, on a aucune marque comme Uniqlo, comme Zara ou H&M. Et je me suis dit, est-ce que l'État n'a pas son rôle à jouer en faisant une marque où c'est bien produit avec des bons prix? Et là, on sort de la fast fashion.
Et qui est copain avec Macron?
Je crois que c'est moi.
C'est toi? Bah alors, vas-y.
Non, je suis. Et comme on disait, je suis pas vraiment un mec de la mode. Donc, mais ce serait cool en plus. Et après, on pourra faire des collabs entre ces marques et des grands designers français. Donc, il y a plein de choses à faire autour de ça.
Je vais suivre ça de près. Reparlons fringues personnelles. Oui. Quel est ton dernier achat?
Mon dernier achat, c'est une chemise Baudet. Baudet, une marque que j'ai découvert sur Instagram. Je regarde je suis beaucoup de monde sur Instagram. Je crois que je suis à peu près 2000 personnes.
Tu ne suis pas Valérie Tribe, hein. Je dis ça, je dis rien.
C'est vrai. Bon, je vais regarder ça. Mais si, je crois. En tout cas.
Mais je crois que. Charrie.
Mais je suis chiffon.
Ah,
depuis
voilà.
Le début. du coup, j'ai acheté une chemise Baudet. C'est une super belle marque new-yorkaise avec une inspiration indienne qui récupère d'anciens tissus en Afrique, en Inde, etc. et qui réalise des chemises avec.
Ça fait 3 ou 4 fois que tu me cites les États-Unis. Ça te fait rêver?
Les États-Unis. Aujourd'hui, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup parce que déjà par rapport à la marque. Je pense par rapport à son potentiel aux États-Unis. On est revendu déjà chez dans certains revendeurs et aussi chez Shopbop et ça fonctionne super bien. Et là, on a d'ailleurs une grande star américaine qui nous a demandé de lui envoyer des pièces. Je peux pas dire le nom. Non, je peux pas. Là, j'ai déjà trop dit. En plus, je suis superstitieux. Je n'arrive pas à dire tant que c'est pas arrivé. Donc bon, il faut que...
Quand ce sera arrivé, tu me le diras, je le mettrai sur Instagram.
Exactement.
Pour les auditrices. Super. Et les auditeurs. Quel est ton prochain achat?
Mon prochain achat, il faudrait que je regarde. Alors, j'ai pas de liste comme Marc Boget, mais j'ai des captures d'écran. J'ai des captures d'écran et il faut que je regarde.
Ah, donc t'achètes plutôt en ligne, j'imagine.
Non, alors ça dépend. J'achète en ligne, mais sinon je fais beaucoup de captures d'écran. Ensuite, je vais en boutique.
Ah, et, oui,
et puis j'essaye. Après, j'ai des périodes où j'achète beaucoup d'un coup. Et ou sinon, après, ben, je faisais avant. Avant, je faisais des listes au départ. Et là, maintenant, je préfère faire les captures d'écran.
C'est quand même la deuxième fois qu'on me parle de listes sur téléphone. La première, c'est Marc Boget. Là, c'est toi. Deux hommes. Comme quoi.
Non, c'est hyper important. Mais moi, j'arrive pas à retrouver. Mais
avant la fin de l'émission, tu me diras.
Avant la fin de l'émission, je retrouverai.
Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus?
Je les stocke. Je stocke beaucoup, beaucoup de vêtements. Avant, je donnais à
tu
mon petit frère.
Tu les donnes pas?
Je donnais à mon petit frère, comme on est une grande famille. Donc forcément, c'était plus simple. Même depuis qu'on est petit, nous, ça a toujours été comme ça. C'est que même, alors, mon père nous achetait des vêtements avec deux tailles en plus lorsqu'on était plus jeune, pour qu'ensuite, pour qu'on puisse grandir avec le vêtement déjà, mais pour qu'ensuite on puisse le donner au petit frère ou à la petite sœur qui suit. Et ce qui fait que nous, en fait, ben, à chaque fois, mes vêtements, je les porte plus, je les donne à mon petit frère. Mais aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui est plus grand que moi. Je sais pas ce qui.
T'es déjà très grand.
Et il fait 1m96 ou quelque chose comme ça, beaucoup plus costaud. Donc il peut pas prendre mes vêtements. Alors ce que je fais, c'est que moi je stocke beaucoup et en fait ma mère après envoie les vêtements au Sénégal. Donc une fois par an, on fait des gros, on envoie ça au Sénégal avec des conteneurs exactement. Et c'est comme ça qu'on arrive à donner une seconde vie à nos vêtements.
Tu disais que c'est ton papa qui vous achetait les fringues.
C'est mon père et ma mère. Mon père, parce qu'à chaque rentrée, en fait, on allait avec lui.
On avait pour acheter des vêtements de marque.
Pour acheter des vêtements de marque. On allait à Clignancourt, au marché aux puces, le marché Malik. Et c'est là où on achetait nos vêtements. On avait une paire de chaussures. Je me souviens, c'était très calculé. On avait une paire de chaussures de marque, vraiment, genre avec un petit coup. C'était un petit budget, ça c'est clair. Hein. Et ensuite, on avait une petite paire de chaussures que je pouvais utiliser, avec lesquels je pouvais jouer au foot, etc. J'ai acheté mon survêtement et mon pull. Voilà, c'était ma tenue pour la rentrée. Et après, ma mère, elle aimait bien faire des surprises, nous acheter des petites pièces par-ci, par-là. Et je m'en souviens une fois où elle avait acheté... Elle était venue avec un survêtement Lacoste.
Waouh!
Mais c'était un faux.
Ah!
Et j'aime pas décevoir ma mère, mais j'ai pas pu le porter parce qu'en plus, surtout le Lacoste, à l'époque, on savait exactement distinguer un vrai d'un faux, donc on regardait tout, le sens du crocodile
était à l'envers, exactement.
Donc il y avait tout ça qui était vérifié sur le pantalon, on regardait si le crocodile était bien placé, à la bonne hauteur, la couleur de la langue du crocodile, enfin tout était vérifié.
Mais alors, comment t'as fait?
Ben, je l'ai jamais mis, et puis en fait, elle a compris, et du coup, depuis ça, elle nous a plus acheté de vêtements.
Alors, tu as 29 ans? Comment te vois-tu dans 50 ans?
Dans 50 ans récemment, j'ai pris une décision, c'est tous les 10 ans, me consacrer à une activité. Peut-être pas changer totalement de vie, mais là, je me suis dit, j'ai une décennie sur laquelle je travaille sur la mode. Ensuite, la seconde décennie, c'est sur la restauration. J'aime beaucoup la restauration, la pâtisserie surtout, parce que je voulais faire un CAP cuisine au départ, mais que je n'ai jamais fait. On m'a découragé. Mais j'aime toujours
Pourquoi
ça. On m'a découragé lorsque j'étais au collège parce qu'on m'a dit que je pouvais faire mieux. Alors que, et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et je pense que j'aurais pu être un bon pâtissier en plus.
Bah maintenant, il y a des gens qui sont diplômés de grandes écoles qui deviennent bouchers ou charcutiers qui ouvrent des laiteries dans le 9e. C'est très à la mode.
Tout à fait, ouais. C'est très à la mode. Et je pense que j'étais peut-être un peu en avance sur mon temps.
Bah exactement. Quelle est ta définition de l'élégance?
Alors, ma définition de l'élégance, je pense que être élégant, en fait, c'est être à l'aise, être en phase avec ce qu'on porte et bien se sentir dans ses vêtements, avant tout. Même avant de porter des pièces de marque ou de grande qualité, mais c'est surtout être confortable dans ses vêtements et se sentir à l'aise.
Qu'est-ce qui te fait justement, t'es dans la rue et tu vois un homme et tu dis waouh, il est élégant. C'est justement parce que tu le sens à l'aise ou il assume sa tenue ou.
Bah, je pense que c'est parce qu'il est à l'aise et qu'il assume la tenue. Et en fait, ça crée un tout et ça donne justement après ce côté un peu charismatique chez une personne. Mais c'est parce qu'il assume et qu'il est à l'aise. Et c'est le plus important avant tout. Parce qu'on peut voir des gens qui portent des vêtements qui coûtent très cher ou de très très bonne qualité, mais avec qui ça marche pas. Donc.
Qu'est-ce qu'une femme élégante pour toi ?
Une femme élégante, c'est une question difficile. Ah. je peux répondre à la même chose.
C'est un peu trop facile, hein, mais vas-y.
Non, mais je pense que pour tout le monde, c'est la même chose, c'est se sentir à l'aise, être bien dans ses baskets. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une société où c'est très compliqué. On est beaucoup porté sur l'image, sur les réseaux sociaux, sur ce que les gens pensent de nous. Et en fait, on a du mal à s'accomplir et à accepter ce qu'on est soi-même. Et finalement, en fait, parce qu'on peut voir des gens qui... moi, je vois, même dans mon entourage ou lorsque je rencontre des gens, on a l'impression que beaucoup de gens jouent un rôle. Alors qu'en fait, il suffit d'être soi-même. Et lorsqu'on est soi-même, en fait, les gens le captent et ça rend tout de suite les gens plus beaux.
Bah déjà, oui, tu parlais des réseaux sociaux. C'est vrai que ce que tu vois sur une photo n'est pas forcément la réalité.
Mais c'est souvent pas la réalité en plus. Enfin, les gens savent très bien se mettre en avant. Aujourd'hui, on est devenus nos propres marques. Enfin, on communique comme si on était une marque. On montre que les beaux aspects de nous, etc. Et ensuite, après, quand on voit dans la vraie vie, souvent, c'est pas pareil. Hein.
C'est pas toujours ça. Que te souhaiter pour 2019 ?
Que du bon, pareil, hein, comme 2018. Moi, honnêtement, j'ai commencé en 2015.
Ah bah là, on te retrouve chez Trump en 2018.
Non, surtout pas. Pour le déloger.
Voilà, exactement.
Mais non, parce que moi, honnêtement, j'ai commencé en 2015 sans savoir ce que la marque allait devenir et ce que le projet allait devenir. Et tout a été... J'ai rencontré des personnes super bienveillantes, avec des marques avec qui on a fait de super belles collaborations. Et en fait... Moi, je veux juste continuer ce que je fais, le faire le plus simplement possible et de la façon la plus authentique. Et juste me souhaiter que mes projets continuent, que je fasse encore de très belles collaborations et que la marque existe encore pendant des années et des années.
Mais et c'est ce que je te souhaite.
C'est ce qu'on a essayé de faire et puis j'espère qu'on y arrivera.
Mais l'épisode n'est pas fini.
Ah.
Il y a un petit questionnaire à la fin où il faut répondre très vite.
Ok.
Si tu étais une couleur...
Bleu.
Si tu étais une chaussure, on a deviné ça.
Une Air Force One Jordan.
Si tu étais une matière.
Une matière. Une matière d'école ou...
Non, une matière de fringues.
Non, je t'embête. Le velours.
Le velours. Si tu étais un accessoire.
La casquette.
Si tu étais un parfum.
Balle d'Afrique de Byredo ou Byredo, on m'a dit que ça se dit.
Si tu étais un pull.
Je serais. Alors, il y a Atelier Bartavel qui a fait des pulls avec les Yaya en Grèce et des pulls tricotés à la main par des grands-mères en Grèce. Donc voilà, je serais ce pull.
Si tu étais un créateur ou une créatrice.
De mode, je ne connais pas beaucoup en plus.
Tu peux me dire Joker. Hein.
Joker.
Si tu étais une femme.
Ma mère.
Merci infiniment, Youssouf.
Merci, Valérie.
Je tiens à te dire que j'étais très touchée par cette émission et reste aussi humble et simple.
Merci beaucoup, vraiment merci.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cette émission, Gémio, ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.